www.bf.be. Et d'abord, donc, nous sommes à 7h15 en direct avec la bourgmestre de Verviers, c'est Muriel Tarnion qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
On va commencer par le bilan humain. Quelles sont vos dernières informations, Muriel Tarnion?
Oui, donc j'étais encore au centre de crise à 3h30 du matin et malheureusement à cette heure-là, on dénombrait 6 victimes sur la ville de Verviers. Plus, on ne sait pas le dire exactement, un certain nombre de personnes signalées disparues par les familles, mais on espère, en tout cas ce matin, on devrait avoir plus de précisions des personnes qui vont pouvoir être retrouvées parce qu'elles sont tout simplement sans électricité, donc pas contactables, ou dans des centres d'accueil que l'on a créés depuis hier après-midi.
Un couvre-feu a été instauré cette nuit. Comment ça s'est passé? Il était respecté?
Il a été assez bien respecté. Quelques petits problèmes avec certains jeunes dans certains quartiers, mais de manière générale, le respect a été fait. Ça a surtout permis à la police, c'était ça le but, de surveiller davantage. Oui, c'est ça. On a malheureusement quand même eu des pillages. On ne sait pas les éviter partout. Nous n'avons pas suffisamment de policiers qui peuvent s'occuper de ça, puisqu'il y avait encore sur la zone de Verviers, pendant la nuit, on est avec Peupastère, des problèmes d'évacuation de personnes sur la commune de Peupastère. Et donc, c'est normal que la plupart des policiers étaient aussi occupés à aider les pompiers dans cette tâche.
Et donc ce matin, il y a encore plusieurs personnes portées disparues. Les recherches se poursuivent sur le terrain, Muriel Tarnion?
Oui, il y a des recherches qui se poursuivent sur le terrain par les services de secours et il y a aussi au niveau du centre de crise une personne qui a collationné tous les témoignages des familles et qui est en train de prendre, de les mettre en rapport avec les personnes qui sont dans les centres, les autres personnes qui ont réussi à donner un contact avec effectivement aussi les personnes que l'on recherche encore. Donc normalement dans la matinée, on saura dire exactement le nombre de personnes qui sont disparues. Parce que malheureusement, elles auraient été emportées par le courant, excusez-moi.
Et est-ce que ce matin, vous voyez de vos propres yeux le niveau de l'eau baisser dans les rues, dans les maisons?
Oui, je l'ai vu toute la nuit, puisque nous avons beaucoup de caméras de vidéosurveillance sur Verviers, donc j'étais au centre de crise, on pouvait observer tout le centre-ville. Donc le niveau de l'eau est retombé depuis hier soir dans toute la ville de Verviers, la Vesdre est rentrée dans son lit. Mais par contre, l'eau a envahi, sur les 8 km que la Vesdre traverse Verviers, l'eau a envahi toutes les maisons qui sont au niveau de l'eau. Tout le centre-ville est ravagé, il n'y a plus aucun commerce qui n'est pas rempli de boue, de débris. Et donc la journée d'aujourd'hui va être
journée aussi, de nettoyage.
Une journée de nettoyage et de solidarité aussi avec les citoyens qui viennent, qui se montrent solidaires pour aider les commerçants et les habitants à évacuer leurs maisons et à nettoyer leur maison, parce qu'évidemment, il y a énormément sur la ville de Verviers de personnes concernées qui ont eu de l'eau jusque au-dessus du rez-de-chaussée ou au-dessus du premier étage dans leur maison, donc tout est ravagé.
Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous, Muriel Tarnion. Bonne journée et bon courage. Il est 7h18 sur la première des témoignages. Nous allons vous en proposer également ce matin et on va aller maintenant du côté de Liège avant de retrouver Bertrand Haine qui se trouve au centre de crise de Grivenier. Un témoignage recueilli ce matin par Barbara Schall qui est ce matin, elle, dans le centre de Liège. Et elle a rencontré un habitant qui vient de constater les dégâts dans sa maison. On l'écoute.
Bah écoutez, je suis venu depuis mon village de Juprel très tôt le matin. Je n'ai même pas dormi pour aller voir si ma maison n'était pas noyée, on va dire.
Vous avez une maison ici?
Oui, à Saint-Léonard, ici à côté.
Et vous êtes un peu inquiet là d'éventuels dégâts?
Oui, je suis inquiet. Du coup, je suis venu voir, mais apparemment, ça n'a pas été inondé près de Coromeuse, Saint-Léonard.
Quand vous voyez les quais là qui sont à nouveau secs à présent ou presque, vous êtes soulagé?
Oui, je suis soulagé, mais c'est quand même inquiétant de voir la Meuse toujours aussi haute et rapide, on va dire.
Vous avez peur que ça remonte?
Oui, mais normalement tout va bien se passer, bon, croisez les doigts.
7h19 sur la première édition spéciale jusqu'à 9h et Bertrand Haine est maintenant avec nous. Bonjour Bertrand.
Mais bonjour.
Vous êtes au centre de crise de Grivenier et vous êtes entouré de sinistrés, je crois, ce matin.
Exactement. La plupart des sinistrés qui sont venus ici à Grivigny, alors pour vous expliquer, pour les non-liégeois qui nous écoutent ce matin, Grivigny, c'est sur les hauteurs de la ville de Liège, à peu près 2 km du centre. Et c'est ici, sur les hauteurs, évidemment, que la ville de Liège a installé son principal centre d'accueil où les sinistrés peuvent venir se restaurer, dormir, trouver de l'aide d'une manière générale. Et tous les services de la ville de Liège, le CPS, etc., sont rassemblés ici pour essayer de trouver de l'aide pour les gens. La plupart des gens ont été relogés chez des proches ou dans les hôtels de Liège. Et il y a encore quelques personnes autour de moi, dont Lisette et Joseph, qui étaient dans leur maison à Chénet. Chénet, c'est donc au confluent de la Vesdre et de l'Ourthe, les deux cours d'eau qui ont largement débordé toute la journée d'hier et depuis mercredi. Et donc, ils se sont retrouvés très vite sinistrés. Lisette, comment vous êtes arrivée ici, vous ? Parce que, en fait, les inondations ont commencé mercredi, mais vous êtes arrivée seulement cette nuit.
Aujourd'hui, nous sommes arrivés cette nuit à 1h30 du matin. On a entendu crier dans la rue, il y a quelqu'un. On a ouvert la fenêtre, on était à l'étage. Et on a vu des jeunes avec une pelleteuse qui, quand on a ouvert la fenêtre, ils nous ont vus. Ils ont dit, est-ce que vous voulez partir au chaud pour pouvoir manger, aller dormir au chaud et boire une tasse de café. Mon mari et moi, on a regardé, on s'est dit, on y va, on n'y va pas.
Parce que, en fait, vous aviez peur de quitter la maison parce qu'il y avait beaucoup d'eau, quoi. Jusque-là, c'était impossible.
C'était impossible. Et alors, on s'est dit, après tout, on va y aller, parce qu'on avait froid, on n'était pas bien. Et alors, on est descendu au rez-de-chaussée, où il y avait quand même un peu, l'eau avait quand même diminué. On a ouvert la porte, et avec leur pelleteuse, ils nous ont pris tous les deux dans le bac, et ils nous ont soulevés, et ils nous ont apportés jusqu'au pont du Long-Nu.
D'accord, et puis vous vous êtes donc retrouvés ici. Peut-être, Joseph, dans quel état était votre maison quand vous l'avez quittée ?
Quand on l'a quitté, il restait plus que pratiquement une vingtaine de centimètres d'eau. Mais pendant la journée, entre mercredi soir et tout compte fait jeudi soir, il y avait plus de 2 mètres d'eau dans tout le rez-de-chaussée. Cave inondée et tout le rez-de-chaussée inondé à plus de 2 mètres d'eau.
Voilà, et ça c'est le cas à Chénet, c'est le cas à Angleur aussi, commune très très touchée par les inondations, qui est d'ailleurs le centre de Chénet et d'Angleur, qui sont toujours interdits de circulation ce matin. Juste une dernière question, Lisette, vous allez rentrer quand chez vous ? Vous y pensez, je suppose, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ?
Qu'est-ce qu'on va faire ? On y pense, mais quand ? Quand est-ce qu'on pourra retourner ?
C'est difficile évidemment, parce que vous n'avez pas de perspective de pouvoir rentrer très vite chez vous.
Non, on a tout perdu.
Oui. Vous êtes malheureusement nombreux dans ce cas. C'est très difficile pour les riverains, évidemment, d'imaginer maintenant rentrer dans la maison. Ça, c'est l'étape d'après. Mais la chose qui, et ça, vous étiez aussi nombreux à nous le dire, c'est la solidarité. Il y a beaucoup de gens qui vous ont aidé, dont ces jeunes qui vous ont sorti de la maison.
Mais je n'aurais pas dit merci. Et ils nous ont dit, mais madame, on le fait avec plaisir. On est là pour vous aider.
La solidarité et l'émotion qui est au rendez-vous, on l'entend bien ce matin. Bertrand, merci d'avoir recueilli ces témoignages en direct. On vous retrouvera bien sûr tout à l'heure au fil de cette édition spéciale de la matinale. À 7h23, on va rester en région liégeoise. On va aller du côté de Theux, où la situation était assez catastrophique ces derniers jours, ces dernières heures. Manifestement, ça s'est un peu calmé. On est en ligne avec Alexandre Laudet, le président du CPS de Theux. Bonjour à vous.
Oui, bonjour monsieur.
Est-ce que vous confirmez que ça s'est calmé, que la situation va beaucoup mieux ce matin ?
Oui, ce matin, je suis allé dans mon village de Spiche où le voyer est sorti du lit très longtemps et a ravagé des maisons du centre du village. Mais vraiment, le voyer est dans son lit. Et de manière générale, depuis hier, 15h, on sent véritablement que le loyer et la hogne ont rediminué, de telle manière à ce qu'on a pu commencer dès hier à 15h l'opération nettoyage. Donc on a amené rapidement hier une vingtaine de containers. Des tracteurs sont venus nous aider aussi, des mouvements de jeunesse, des citoyens. Donc il y a vraiment dès hier eu la volonté de renettoyer notre localité qui est une localité vaillante.
Phase de nettoyage, mais c'est aussi à ce moment-là que l'on constate, j'imagine, l'ampleur des dégâts, Alexandre Ledé.
Oui, tout à fait. On voit l'ampleur des dégâts, mais pour moi, ils sont de deux types. Il y a des dégâts matériels, qui sont très significatifs dans le centre de la localité, mais avec probablement très peu d'instabilité des bâtiments. Mais ça, ce sera vérifié aujourd'hui et demain par des ingénieurs. Mais le deuxième problème, c'est les effets du fait que nous n'avons plus d'eau et qu'une grosse partie de la localité n'a plus d'électricité. Donc, résultat des courses, on a dû évacuer déjà il y a deux jours 50 résidents d'une maison de repos. Et aujourd'hui matin, on fait une deuxième vague de 70 résidents, alors qu'il n'y a plus de problème d'inondation, mais il n'y a plus la capacité d'utiliser les bâtiments. Et donc on est obligé de les remettre dans d'autres eaux, mais ça c'est quelque chose de relativement inquiétant.
Difficulté au niveau de l'électricité, difficulté au niveau de l'eau potable. En revanche, tous les sinistrés à ce stade ont tous été relogés.
Oui, on a pu utiliser l'internat de l'école d'agriculture de l'Arrée, qui a une capacité de plus de 200 places, et on a utilisé à peu près la moitié. Donc de ce côté-là, c'était vraiment impeccable. Et en ce qui concerne les autres personnes, il y en a, comme des témoignages qu'on a entendus, des gens qui ont absolument voulu rester chez eux. Et donc on a fait des petites rondes, parfois la nuit aussi, pour voir si les gens ne voulaient quand même pas quitter, mais ils étaient accrochés à leur habitation. Heureusement, ça s'est bien terminé pour eux.
Vous avez vu, pardonnez-moi, des élans de solidarité au fil de ces dernières heures, Alexandre Ledé ?
Oui, et je vous dis surtout de manière très très forte depuis hier, milieu de journée, parce qu'on pouvait réellement atteindre les lieux et réellement réagir. Les moments de frayeur qu'on a eu aussi, c'est qu'on avait 26 enfants qui étaient dans le hall des sports, qui étaient en train de faire un stage sportif, qui ont été pris au piège par les eaux. Et malgré l'intervention de la protection civile, ils ont dû dormir une nuit complète là-bas. Et heureusement, fin de matinée, on a pu rassurer les parents. Et on est allé avec des tracteurs. Et ben, heureusement, on est encore une zone rurale et donc on a tout ce qu'il nous faut.
Eh bien, merci pour vos commentaires en direct ce matin. Bonne journée, bon courage, je vais me répéter ce matin, pour la suite de ces moments de nettoyage au cœur de Theux ce matin. Merci beaucoup. 7h26 sur la première. On va faire un tour sur les routes avec Antoine Binamé qui va nous guider ce matin. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Il y a encore des axes à éviter ce matin.
Oui, effectivement. Alors de manière générale, même conseil qu'hier, privilégiez les E411, E40, E19, etc. Elles ont moins de chances d'être saturées et moins de chances aussi d'être embourbées, si ce n'est du côté de Liège, on y vient dans une seconde, mais les axes secondaires sont très impactés, surtout les nationales à trois chiffres. Je le disais, Liège E25 fermé à Wandre, direction Liège, et A602 fermé entre Hambourg et Avoir-Laveu. Vous le savez, le tunnel Quincampoix a été sous eau. Une bonne nouvelle, par contre, il faut la donner, N68 rouverte au niveau de Stavelot, au niveau du pont de Chéneux. Luxembourg, c'est la N833 entre Auton, rang 2, N86 à Beaumale, N811 à Virton qui sont concernés, chaussée fermée dans les deux sens. Faucan est pratiquement inaccessible pour l'instant, un peu de patience. N99 Nîmes-Pétigny, ces deux derniers incidents, c'est pour la province de Namur. Dans le Brabant wallon, Cours Saint-Étienne et Limal sont très impactés. N25, N238, N239. Des soucis en Hainaut, notamment avec un accident sur le ring de Charleroi. Tout le détail de ces chaussées inondées, embouées, je ne sais pas si le mot existe, mais vous aurez compris l'image, sont disponibles sur le site rtbf.be/mobileinfo, et on me signale un instant, un piéton à contresens qui se balade sur l'E42 à Bernissard, direction Mons. Soyez particulièrement vigilants.
Découvrir Louvain en vélo électrique ou Gand en monoroue pour voyager, combiné avec Etias. Matin première.
De mémoire de cheminot, j'ai jamais vu ça.
Émission spéciale.
En direct sur la première jusqu'à 9h à 7h28, on va quitter la Wallonie et la Belgique quelques instants pour se rendre en Allemagne pour y retrouver notre correspondant Pascal Thibault. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Situation très complexe hein, aussi ce matin. On lit dans les dépêches qu'il y a au moins 58 morts en Allemagne. 58 morts des suites donc des intempéries sur place. Racontez-nous.
Oui, effectivement, et même le bilan, il y a quelques minutes, a été revu à la hausse avec, d'après les autorités, plus de 80 morts qui ont frappé deux régions, le Rhénanie-Palatinat et la Rhénanie du Nord-Westphalie. Hier, j'étais dans le canton le plus touché de Bad Neuenahr-Ahrweiler, où, par exemple, environ 50 personnes sont mortes, 1300 personnes sont encore disparues. C'est actuellement la priorité de retrouver des disparus avec un bilan qui pourrait encore s'alourdir. Hier soir, cette la petite ville de Bad Neuenahr où je me trouvais ressemblait vraiment à rappeler des scènes qu'on connaît des tsunamis asiatiques avec des torrents de boue qui s'étaient déversés. Les gens essayaient d'en venir à bout, pompaient l'eau dans leur cave et les voitures étaient amoncelées comme des sculptures d'art moderne. Évidemment, beaucoup de problèmes de communication technique, téléphonique, des voies de chemin de fer coupées, des ponts arrachés. Donc, une situation très, très compliquée. La priorité aujourd'hui, c'est de retrouver les disparus et aussi de faire en sorte, mais ce n'est pas simple, que des inondations supplémentaires n'aient pas lieu, notamment en raison de la faiblesse, de la montée des eaux et de la faiblesse de certaines digues en Rhénanie-du-Nord-Westphalie qui pourraient céder et ce qui pourrait évidemment encore provoquer des inondations supplémentaires.
Et pendant ce temps-là, Angela Merkel est à l'étranger.
Oui, Angela Merkel était partie dès mercredi après-midi pour Washington pour sa dernière visite officielle aux États-Unis et fait assez rare. Elle a donc réagi depuis là-bas à ce qui s'était passé dans son pays pour à la fois exprimer son empathie à l'égard des victimes et de leurs familles, mais aussi annoncer que le gouvernement ferait tout son possible pour venir le plus rapidement possible en aide aux victimes, comme on l'avait vu en 2013 lors d'inondations de l'Elbe dans la partie est du pays ou lors des grandes inondations de 2002 qui elles aussi coïncidaient d'ailleurs avec la campagne électorale.
Merci beaucoup pour ces éléments sur la situation en Allemagne en direct ce matin. Pascal Thibault, 7h31 sur la première. Soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre. Vous êtes au cœur d'une édition spéciale de votre matinée.